L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 16h47, ce 3 août 1864. Un cheval gravit péniblement un chemin rocailleux dans les montagnes du Caucase. Épuisé par la chaleur accablante de cette journée d'été, l'animal trébuche, entraînant dans sa chute son intrépide cavalière, qui n'est autre que Elena Blavatsky. Il est 16h47, c'est l'heure H de mon histoire. Quand elle se réveille après des semaines de coma, Elena Blavatsky ressent un grand apaisement. Malgré la douleur physique, elle se sent plus que jamais connectée à des forces surnaturelles. Tout au long de sa vie, les moqueries de son entourage lui ont fait douter de ses capacités, la faisant passer pour une rêveuse un peu loufoque. Mais en reprenant ses esprits, elle se fait une promesse. Plus jamais, elle ne s'excusera d'être différente. Différente parce qu'elle rejette les conventions de son époque et de son milieu et qu'elle décide de partir voyager seule à l'étranger. Différente parce que, depuis toujours, elle sait qu'elle a un don. À 33 ans, on peut dire qu'Elena mène une vie hors norme. Imaginez donc. Une jeune fille du 19e siècle, voyageant seule du Japon au Canada en passant par les Balkans et le Moyen-Orient. Pour se lancer dans cette entreprise, il faut une sacrée force de caractère et aussi une motivation sans faille. Rappelons que le premier vol en avion motorisé est accompli par les frères Wright en 1903 et le premier vol commercial en 1914. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Elena n'est pas uniquement portée par sa curiosité. Elle est aussi guidée par des voix d'êtres venus d'un autre monde, le monde invisible. Ce sont les voix de ces entités qui redoublent d'intensité lorsqu'Elena se remet doucement de sa chute équestre, une chute qui l'immobilise de force après plus de 15 années de pérégrination. Assise sur son lit, elle observe le paysage depuis sa fenêtre, quand soudain, elle se sent étouffée. Son cœur s'accélère alors qu'une chaleur intense l'envahit. Sa vision se brouille. Elle perd alors toute notion du temps et de l'espace. Ce qu'il reste, c'est l'urgence. L'urgence de repartir. Elle le sent dans son corps, dans sa tête. Sa quête n'est pas finie. La prochaine destination sera le Tibet. Elle réalise qu'il lui reste encore beaucoup de choses à découvrir et à transmettre au monde entier. Son goût de l'ailleurs, Elena le tient de son père, militaire et figure importante de la noblesse russe des tsars. Ce dernier doit sans cesse déménager, emmenant avec lui sa famille. Elena s'habitue très vite à ce mode de vie nomade qui la pousse à développer une ouverture d'esprit et une curiosité dévorante. Elle ne s'ennuie jamais, puisqu'il y a toujours de nouvelles personnes à rencontrer et de nouveaux paysages à admirer. Mais tout n'est pas rose. Une nuit, peu avant son 11e anniversaire, son monde s'effondre. Dans l'obscurité de sa chambre à coucher, Elena se réveille en sursaut. Elle est alors prise de tremblements incontrôlables. Une certitude l'envahit. Sa mère va mourir, et bientôt. Elena rejoint cette dernière qui essaye de rassurer sa fille tant bien que mal. Elena est désespérée. Elle se sent seule et impuissante face au cataclysme qui se prépare. Dans quelques jours, sa vie changera pour toujours. Elle en est convaincue. Et vous vous en doutez, la prémonition d'Elena se confirme et le décès de sa mère va chambouler la vie de la petite famille. Les trois enfants sont envoyés chez leurs grands-parents, ce qui annonce la fin d'un mode de vie itinérant, du moins pour quelques années. Au sein de l'immense propriété familiale, la petite Elena est entourée de domestiques qui veillent à ce qu'elle ne manque de rien. Enfoncée dans un fauteuil près de la cheminée, elle passe de longues heures à lire des ouvrages appartenant à son grand-père tout en dégustant de petits gâteaux. Le regard vif, Elena tourne les pages avec impatience. Elle apprend tellement vite et facilement qu'il n'est pas rare qu'en remettant les livres sur l'étagère, la femme de chambre découvre un ouvrage en français ou en anglais. Même s'ils sont nombreux, les livres de la bibliothèque ne suffisent pas à étancher la soif de connaissance de cette petite fille. Elena se résout donc à apprendre plusieurs langues avec l'aide de sa gouvernante. Avec le temps, ses capacités intellectuelles se développent de manière exponentielle. On dit d'elle qu'elle est capable d'apprendre une langue instantanément, qu'elle sait lire le sanskrit sans que personne ne lui ait appris. Avec sa vivacité d'esprit et son talent certain pour raconter des histoires, Elena impressionne toutes celles et ceux qu'elle rencontre. Durant sa convalescence, à l'automne 1864, elle passe de longues heures à écrire. Quand elle n'a pas la force de rédiger à table, elle le fait directement de son lit, les pages posées sur son livre de chevet du moment. Pour Elena, l'écriture, c'est tout naturel. L'encre se répand sur le papier à un rythme régulier. Il ne lui faut même pas réfléchir. Les mots viennent sans effort. Elle veut que ses écrits soient publiés sous son vrai nom et pas sous un pseudonyme, comme elle le faisait il y a quelques années. Elle ne le sait pas encore, mais ils constitueront la base d'un véritable mouvement philosophique mondial. La théosophie moderne. Mais ça, nous en reparlerons plus tard. En tout cas, Elena n'est pas du genre à écrire des guides du routard. Ses voyages sont éminemment spirituels. Sur la route, elle rencontre des sorciers, des chamans, des yogis qui lui partagent leur expérience et qui l'initient à leur rituel. Ce qui l'intéresse, c'est de questionner la réalité. Où placer la frontière entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas? Pour Elena, cette distinction n'a justement aucun intérêt. Elle aime dire qu'elle traverse aisément les frontières du réel, accompagnée par des entités surnaturelles qui l'ont toujours protégée. À quoi bon s'enfermer dans des cases? Pense Elena en jetant ses affaires dans une vieille valise en cuir, quelques semaines plus tard. Parmi ses habits chiffonnés, on distingue des chemises et deux pantalons. Rien de bien choquant, me direz-vous. Mais rappelons que, porté par une femme, le pantalon est une véritable excentricité à l'époque. En s'habillant à la manière d'un homme, Elena clame haut et fort son indépendance et son rejet des normes. Déjà dans son enfance, elle avait remarqué qu'on ne s'adressait pas à elle de la même manière qu'à ses frères. On lui demandait d'être calme et douce, alors qu'elle rêvait de faire les 400 coups avec eux. Mais pas question d'être sage et de suivre les conventions. Elena fait exactement ce qu'elle veut et ne tient pas compte des attentes de sa famille. Les années passent et, paradoxalement, c'est grâce à son mariage qu'elle quitte son foyer à seulement 17 ans. Quelques jours après leur union, son mari, dépité, se rendra compte qu'il était uniquement un simple prétexte pour Elena, qui brûlait d'envie d'évasion. Malgré tout, ils resteront liés et il continuera d'ailleurs à la soutenir financièrement tout au long de sa vie. Pour elle, c'est le début de l'aventure. Parfois, il lui arrive de penser à celle qu'elle aurait été si elle avait suivi le chemin qu'on avait tracé pour elle. Elle s'imagine au bras de cet homme de 20 ans son aîné avec qui elle passerait de longues soirées ennuyeuses. Elle éprouve encore de la sympathie pour lui, mais l'entente cordiale entre eux n'aurait pas suffi à égayer ce morne quotidien. Elena chasse vite ses pensées de son esprit. Pour se sentir vivante, elle a besoin d'expérimenter des choses. Elle n'a pas froid aux yeux. Et pendant ses voyages, elle enchaîne avec joie les rites d'initiation en tout genre, allant jusqu'à demander un jour à être enfermée dans un sarcophage en Égypte. Durant ses expériences, elle parvient à atteindre un état de conscience supérieur. Dans ses moments de lucidité, elle retrouve ses maîtres, ceux qui la guident depuis sa plus tendre enfance, ceux qu'elle suivait, somnambule, dans les couloirs obscurs du manoir de ses grands-parents. La petite fille qu'elle était, en robe de nuit blanche, pieds nus sur le carrelage glacé, savait qu'elle serait protégée par le lutin du palais, comme elle l'appelait à l'époque. Le lutin qui la rattraperait si elle tombait dans le grand escalier en bois. C'est ainsi que par une belle matinée printanière, Elena Blavatsky prend finalement la route pour le Tibet. Là-bas, elle participe à de longues retraites spirituelles et sent que ses dons se développent. Lors d'une transe, les voix lui somment de créer une communauté. Même si cette idée lui semble insensée et que l'inquiétude la gagne, elle décide de leur faire confiance et d'être ouverte à ce que son destin lui réserve. S'il s'agit vraiment de sa mission de vie, les choses se mettront en place au moment opportun. Et au Tibet, ce n'est pas encore le moment. Elle continue donc son périple. Ce n'est que 3 ans plus tard qu'elle finit par établir ses quartiers dans la ville de tous les possibles, New York City.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous parle d'une personnalité haute en couleur, Elena Blavatsky. Cette femme a bousculé les codes du 19e siècle, enchaînant les pérégrinations aux 4 coins du globe. Après un accident équestre, elle prend conscience de la force de ses facultés surnaturelles et va essayer d'imposer son point de vue et sa pratique au monde qui l'entoure. Et croyez-moi, ce ne sera pas si facile. New York City, 22 octobre 1878. Dans cette ville, les nouveaux immeubles poussent comme des champignons. Pas étonnant, quand on sait qu'elle accueille plus de 10 millions d'immigrants entre 1820 et 1890. Dans le salon cossu d'un appartement du centre de Manhattan, une 20aine de personnes de tout âge, hommes et femmes, sont dispersées dans la pièce, affalées sur divers fauteuils molletonnés. Certains, déjà impatients, déambulent dans la pièce et regardent avec curiosité la décoration quelque peu excentrique de ce lieu. Les murs, déjà recouverts de papier peint, sont bourrés de cadres dorés, des portraits de maîtres spirituels pour la plupart. Il y a aussi plusieurs animaux empaillés, figés dans des postures menaçantes. L'immense bibliothèque en acajou est pleine à craquer de divers livres énigmatiques, ainsi que de bibelots, des objets hétéroclites, glanés par Elena Blavatsky au fil de ses voyages. Ils sont une 20aine à regarder Elena, attendant d'elle un quelconque signe d'intérêt. Signe qu'elle ne semble pas vouloir leur accorder. Le visage nimbé de fumée de cigarette, elle les toise depuis sa méridienne, les yeux narquois. Ses boucles blondes retombent sur ses joues rieuses et sur le col de son manteau en fourrure de vison. Elle aime les déstabiliser. Il ne faut pas qu'ils soient trop à l'aise en arrivant. Elena profite de ce moment d'attente pour prendre la température de la pièce. Elle observe attentivement le comportement de son audience et essaie de mémoriser un maximum d'éléments significatifs. Ce soir, en scrutant la foule, elle croit apercevoir un journaliste. Il fait peu d'efforts pour se fondre dans la masse. Mal à l'aise, trop grand dans son costume, il analyse son environnement de ses yeux perçants, avec l'air de celui qui ne croit que ce qu'il voit. Quand son regard croise celui d'Elena, il baisse les yeux, en cachant maladroitement un vieux calepin dans la poche intérieure de sa veste. Oh, ça n'inquiète pas Elena, qui observe maintenant ce grand enfant d'un air attendri. Elle s'en réjouit, d'une certaine façon, puisque ça ajoute un peu de piment à sa soirée. Elle sait qu'il est sceptique, qu'il cherchera à la déstabiliser, et elle sait qu'elle réussira à lui prouver sa légitimité. Les journalistes, elle les connaît bien. Elle a rencontré son plus proche ami et associé, Henri, alors qu'il menait une enquête sur le spiritisme. En apprenant à la connaître, Henri a vite réussi à distinguer Elena de ces charlatans qui courent les rues de New York. Cette rencontre les a bouleversés tous les deux et liera leur destin à jamais. Plus qu'une amitié, c'est un mariage d'âme qui se traduira par une collaboration sur le long terme. Ensemble, ils s'entraident, ils s'encouragent. Avocat de formation, Henri est connu et apprécié à New York. C'est donc tout naturellement qu'il intègre Elena dans son cercle social. Ils partagent leur appartement et leur quotidien, enchaînant les dîners mondains. En voyant l'enthousiasme de ses proches à la vue des capacités d'Elena à manifester des phénomènes spirituels, Henri organise de plus en plus de soirées chez eux, des soirées qui se transforment en véritables conférences ésotériques. Quand Elena parle, il est pendu à ses lèvres. Il a envie que tout le monde l'écoute, que tout le monde ait accès à son savoir extraordinaire. Bon, ils savent que leur drôle de relation fait jaser. Ils ont beau affirmer qu'elle est platonique, personne ne les croit. Et certaines personnes mal intentionnées iront jusqu'à accuser Elena d'avoir brisé le mariage d'Henri. Il n'en est rien. Et Elena s'agace souvent de leur manque d'ouverture d'esprit. Ils auraient tellement à gagner à se libérer des conventions, comme elle le fait avec Henri. Têtue comme elle est, Elena fait fi de ses rumeurs et garde la tête haute. Il ne faut pas qu'elle se détourne de son objectif. Les voix ont été claires. Il faut qu'elle diffuse ses idées au plus grand nombre et qu'elle crée une véritable communauté. C'est après l'un de ces dîners ésotériques, le 17 novembre 1875, pour être précis, qu'Henri, Elena et l'un de leurs amis juristes fondent une organisation ésotérique. La Société théosophique. La théosophie signifie en grec « sagesse de Dieu ». Le but de ce courant est de faire une sorte de melting pot de toutes les connaissances traditionnelles classiques et mouvements religieux pour en tirer des vérités universelles, loin de l'orthodoxie. Petit à petit, Elena se fait une réputation et attire tout le monde, comme un aimant. Dans le milieu, on l'appelle Madame Blavatsky, même si c'est le nom de famille de son premier mari. Ça lui plaît. Elle a l'impression que ça lui donne encore plus de charisme. Mais Elena est bien consciente qu'une majorité des membres de la Société théosophique participent à ces soirées, non pas pour élever leur âme et accéder à la vérité, mais en espérant une seule chose, trouver du réconfort. Ils sont déçus par la tournure que prend leur vie et attendent que les esprits les rassurent en leur dépeignant un futur plein de promesses. Hors de question pour Elena de prendre des pincettes et de leur donner ce qu'ils attendent. Son rôle est d'être une intermédiaire fidèle entre le monde invisible et celui des vivants. On lui reproche souvent d'être brutale, mais elle ne fait que transmettre avec honnêteté les réponses des entités de l'au-delà. Et tant pis si ce sont des vérités qui blessent. Dans son salon new-yorkais, c'est elle qui dirige. Elle dégage une autorité naturelle et elle en joue. Ce soir du 22 octobre 1878, après une longue attente, les conversations s'éteignent peu à peu. C'est le signe que son public commence à perdre patience. Comme des enfants devant un tour de magie, ils souhaitent tous être émerveillés par le spectacle. C'est alors qu'Henri allume des cierges dispersés dans le salon et qu'Héléna se lève pour s'installer devant son immense piano à queue. Elle pose ses mains translucides sur le clavier qui émet un faible son au contact de ses multiples bagues porte-bonheur. Elle enfonce alors quelques touches avec une grande délicatesse. L'assemblée tend l'oreille et retient son souffle. L'objectif de cette petite mise en scène est de capter l'attention de ses auditeurs et de les mettre dans un état de conscience tout particulier. Il faut qu'ils soient réceptifs à ce qu'elle va leur révéler. Héléna enchaîne en leur racontant son histoire, les maîtres qu'elle a rencontrés, ce qu'ils lui ont enseigné. L'objectif principal est de faire comprendre à ses spectateurs qu'il existe d'autres dimensions, qu'ils ont la possibilité d'élever leur âme. Pourtant ce soir, malgré le fait qu'elle multiplie les anecdotes pour illustrer son propos, elle sent planer une méfiance générale, comme si tout le monde attendait d'elle une preuve concrète pour adhérer réellement à son discours. Pour répondre à cette défiance, elle observe la foule à la recherche d'une personne émanant la sincérité, une personne ne faisant pas partie de ceux qui la regardent comme une bête de foire. Dans un coin d'ombre, elle remarque une femme âgée dont le visage exprime le trouble, la tristesse. Elle n'est pas venue pour le spectacle, c'est sûr, se dit Héléna. Mais alors, qu'est-elle venue chercher ici? Pour le savoir, il lui suffit de fermer les yeux, d'inspirer et de se connecter à cette force si familière, à ses guides. C'est devenu comme une routine pour Héléna. Et à chaque fois, elle tape dans le mille. Quand elle persuade cette dame de la rejoindre, elle n'a qu'à prendre ses mains ridées dans les siennes pour établir une connexion profonde qui lui permet de la comprendre sans même avoir à lui parler. Quelques secondes plus tard, un petit papier plié en quatre virevolte dans les airs avant de venir se poser à quelques mètres d'Héléna devant la foule ébahie. Quelqu'un se précipite pour le lui tendre. Avec un grand soin, Héléna déplie la feuille. L'assistance retient sa respiration. Héléna hoche la tête d'un air entendu. Elle s'avance alors vers la dame âgée en la regardant intensément dans les yeux et lui tend le papier. En déchiffrant le mystérieux message, les yeux de cette dame s'emburent et elle fond en larmes. C'est ce que j'attendais. Laisse-t-elle échapper dans un murmure, un frisson d'excitation parcourt la foule, qui meurt d'envie de connaître le contenu de la lettre. « Les maîtres ascensionnés ont parlé !» s'exclame Héléna. Et ils n'en sauront pas plus. Les heures passent et la conférence initiale laisse place à des échanges plus informels. Il semblerait bien que les personnes présentes aient besoin de relâcher la pression et l'alcool coule à flot. Même le journaliste est enthousiasmé par l'expérience. Pompette, il explique à un petit groupe, à l'aide de grands gestes de la main, à quel point il a été émerveillé par la prestance de Madame Blavatsky. Profitant de l'agitation, Héléna s'éloigne du groupe, espérant grappiller quelques minutes de solitude dans le couloir. Appuyée contre le mur, elle expire longuement. Oh, elle n'est pas tranquille très longtemps. Henri s'approche d'elle, un sourire aux lèvres et deux verres de bourbon à la main. Il lui dit « T'as encore été prodigieuse hein, ce soir, ma chère. » Héléna ne peut pas s'empêcher d'être flattée par le compliment de son ami, qui enchaîne ensuite sur des sujets futiles, se plaignant de la météo et de l'ambiance frénétique et étouffante de la ville de New York. Elle voudrait lui partager le fond de sa pensée, mais elle doit attendre le bon moment. Enfin, elle se lance. Qu'est-ce que tu dirais si je te proposais de repartir, de déménager en Inde ? Elena appréhendait d'avoir cette discussion avec son cher ami. Elle ne comprend pas elle-même son désir. Elle sait bien qu'elle a vécu des décennies de voyages merveilleux, mais que ces dernières années, elle a dû accuser le coup physiquement. À seulement 47 ans, elle marche avec difficulté et se plaint chaque jour de nouvelles douleurs. Hier encore, elle est restée cloîtrée dans sa chambre toute la journée à cause d'une douleur lancinante dans le bas du dos. Même si elle essaye de le lui cacher, Henri voit bien que sa santé se détériore. Et cela le chagrine. Malgré tout, Elena sent qu'elle a assez vu New York. Il est temps pour elle de passer à autre chose, même si elle garde d'excellents souvenirs dans cette ville. Quelques mois plus tôt, en 1878, elle a même obtenu la nationalité américaine, après 5 ans de vie sur le territoire. Oh, elle s'en souvient bien. C'était un soir d'été. Ils étaient allés faire une promenade sur les quais avec Henri. En apprenant la bonne nouvelle, ils s'étaient tous deux réjouis et étaient partis fêter ça chez Delmonico's, le meilleur restaurant du quartier. Ce soir-là, Henri blaguait en affirmant que New York était une ville à l'image d'Elena, cosmopolite, pleine de vie et en constante expansion. Cette comparaison l'avait fait sourire. Finalement, pour Henri aussi, la soif d'aventure reprend le dessus. En entendant la proposition d'Elena de tout quitter pour l'Inde, il n'hésite pas une seconde. « Quand partons-nous ? » lui répond-il. Il sait qu'une fois sur place, il trouvera facilement un travail en tant que représentant commercial des États-Unis. Le lendemain, portés par leur enthousiasme grandissant, Elena et Henri emballent leurs biens les plus précieux et vendent le reste aux membres de la société théosophique. Des départs, Elena en a connu des centaines. Et pourtant, elle est exaltée à l'idée de commencer encore une fois une nouvelle vie et de repartir d'une page blanche.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Dans l'heure H aujourd'hui, je vous parle d'Elena Blavatsky, une femme étonnante qui a traversé des continents à la recherche de rencontres inspirantes et d'expériences mystiques. Une fois installée à New York, elle parvient à réunir autour d'elle des centaines de personnes intriguées par ses enseignements spirituels et ses dons surnaturels. Elle crée ainsi la société théosophique avec son ami le plus cher, Henri. Il est maintenant temps de reprendre la route. Direction l'Inde. Là-bas, elle devra encore une fois faire preuve de détermination pour prouver au monde sa légitimité. New York et Bombay ont en commun la rapidité du développement urbain. À Bombay, les nouveaux immeubles se multiplient et la ville change à la vitesse grand V. Située sur la côte ouest de l'Inde, à l'embouchure du fleuve Ulas, la ville portuaire est le siège de la présidence coloniale britannique. L'arrivée d'Elena et Henri dans la ville est magique. Depuis le bateau, tous deux contemplent le lever de soleil sur ce pays plein de promesses. Ils installent le nouveau siège de la société théosophique dans un village à l'est du pays, près de Madras. Là-bas, ils retrouvent Emma Coulon, une Anglaise qu'Elena avait rencontrée au Caire quelques années plus tôt. Comme elle lui a confié être dans le besoin, Elena lui propose de devenir leur femme de chambre. Emma est aussi membre de la société théosophique et elle se distingue rapidement des autres. Tout le monde remarque qu'elle a quelque chose de spécial. Henri et Elena plaisantent souvent en la décrivant comme une fée. Une fée qui se déplace dans les airs entourée d'une lumière dorée. Dans la foule, elle semble flotter à quelques centimètres du sol. Elle a décidément une énergie particulière. De son côté, Emma est fascinée par Elena, ou Madame Blavatsky, comme elle l'appelle. Et elle exprime très vite son intérêt pour ses pratiques ésotériques. Emma est la première à se porter volontaire pour des expériences d'initiation et elle s'investit toujours tête baissée dans la vie de la société théosophique. Elle tire sa motivation d'une admiration absolue pour Elena. Emma nourrit même l'espoir d'un jour pouvoir lui ressembler. Malheureusement, l'admiration peut bien vite devenir malsaine et se transformer en une jalousie destructrice qui bouleverse tout sur son passage. Mais n'allons pas trop vite. Revenons à Elena et à Henri, qui coulent des jours heureux et insouciants en Inde pendant plus de 3 ans. Durant cette période, ils se convertissent au bouddhisme. On peut dire qu'ils nagent à contre-courant, dans un contexte colonial où les religions indiennes sont rejetées par les autorités britanniques. Cette prise de position représente bien l'un des principes fondateurs de la société théosophique, à savoir la volonté de tendre vers une forme de fraternité universelle de l'humanité, toute religion confondue. Ce changement de vie leur donne un nouvel élan et permet la création d'un journal de théosophistes pour lequel Elena est rédactrice en chef. Oh, le succès ne se fait pas attendre. Le journal est bientôt lu par une large audience et permet l'adhésion de nombreux nouveaux membres à la société théosophique. Pourtant, petit à petit, les membres de la société théosophique se font plus rares dans la résidence d'Elena et Henri, située dans la campagne indienne. Ils ne se font pas encore de mourons à ce stade. Ils continuent leur activité habituelle. Les semaines passent. L'atmosphère change. Ils sentent tous les deux une hostilité latente, même au sein de leur cercle le plus proche. Néanmoins, ils n'en parlent pas entre eux. Elena garde ses pensées en elle et reste de marbre. Elle a toujours agi comme ça. Elle reste maîtresse d'elle-même, en toutes circonstances, et affiche un visage impassible. C'est peut-être pour eux une manière de faire l'autruche ou une tentative désespérée de ne pas inquiéter l'autre. La première lettre de résiliation d'adhésion leur parvient un jour de septembre. Elena est réveillée par la chaleur moite de sa chambre à coucher et par le bruit d'une pluie torrentielle. C'est la fin de la saison humide et les inondations sont menées courantes là-bas. Elena se lève inquiète, prise d'un mauvais pressentiment. C'est elle qui ouvre le courrier ce jour-là. La lettre est brève, rédigée d'une belle écriture ronde. L'expéditeur ne donne pas de justification précise. La formulation reste cordiale. Ce ne sera pas toujours le cas. Durant les prochains mois, Elena devra faire face à des centaines de lettres au contenu souvent mal poli, voire vulgaire. Elena dépose la lettre sur le bureau d'Henri. C'est lui qui gère habituellement l'administration. Et c'est avec un grand zèle que, quelques heures plus tard, il raie le nom du destinataire de la lettre dans son carnet de membres. Affaire classée, se dit-il. Pourtant, Henri sent indéniablement que le vent tourne. Il sait qu'ici, en Inde, comme en Angleterre et même aux États-Unis, certaines personnes malveillantes accusent Elena de fraude. Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs, mais des rumeurs qui grondent et prennent de l'ampleur au fil des jours. Comme toujours, il essaie de préserver Elena de tout cela, mais c'est peine perdue. Cela dit, elle a de moins en moins de self-control. Et il lui arrive de piquer des crises de colère du jamais vu. Même Henri ressent graduellement l'impact de ces rumeurs sur sa vie quotidienne et sur ses relations sociales. Depuis quelque temps, il s'intéresse à la médecine non conventionnelle et pratique le magnétisme. Lors d'un événement organisé par la Société théosophique, une connaissance lui conseille à mi-mot de faire profil bas pour le moment et d'arrêter de prodiguer des soins énergétiques. Voilà comment les deux fondateurs principaux de la société ont été peu à peu écartés et montrés du doigt. Et puis, les rumeurs éclatent au grand jour. Bientôt, Elena fait la une de tous les journaux. Dans ses articles, on questionne sa légitimité, on l'accuse de fraude, d'escroquerie. On dit qu'elle ne se préoccupe que d'argent et de gloire, qu'elle se soucie très peu du monde qui l'entoure. Ceux qui l'admiraient hier se méfient d'elle aujourd'hui. Quand elle découvre qu'elle est le personnage principal d'une immense controverse, Elena est d'abord sans voix, comme pétrifiée. C'est alors que sa colère éclate. Elle bouillonne de rage. Elle fait les 100 pas dans son salon, cherchant à se connecter avec ses maîtres pour qu'ils la conseillent. Mais rien à faire. Elle n'y arrive plus. Pour se connecter au monde invisible, il faut être disponible et apaisé. C'est foutu, se dit-elle. Désespérée, Elena se laisse tomber par terre, se recroquevillant sur son tapis à motifs. Finalement, c'est Henri qui vient la relever et réussit à la tirer jusqu'à la salle à manger. Il veut la forcer à avaler quelque chose, mais c'est peine perdue. Elena a le teint encore plus pâle que d'habitude. Elle fixe le vide de ses yeux tristes. Dépassé par les événements, Henri se lève et va dans la cuisine pour se préparer un petit remontant. Dans la pièce, tout est sans dessus-dessous. Cela fait quelques jours maintenant qu'Emma a déserté la maison. Henri est allé faire un tour en ville pour la chercher, mais elle est restée introuvable. Elle a tout quitté du jour au lendemain. Étrange coïncidence. C'est finalement leur jardinier qui crache le morceau en arrivant à la résidence le lendemain matin. D'après lui, Emma a parlé aux journalistes et pas qu'un peu. Elle leur aurait même fourni des preuves tangibles. Lettre supposément écrite par Elena, où il serait question d'astuces secrètes pour tromper l'audience, une mise en scène d'événements surnaturels. Par exemple, elle parle d'un cabinet duquel Elena sortirait des lettres envoyées par les maîtres. Emma prétend qu'on y trouverait un trou dans le meuble ainsi que dans le mur contigu, afin que quelqu'un puisse écrire les lettres et les faire passer dans la pièce d'à côté en temps réel. Elle raconte également qu'Elena trichait durant ses conférences ésotériques à New York, qu'elle avait un complice qui aurait fait passer les lettres de ses soi-disant maîtres dans les interstices du plancher de bois pour donner l'impression au public que les petits papiers tombaient du ciel comme par enchantement. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En apprenant ça, Elena se met à hurler comme elle ne l'a jamais fait auparavant. Elle est furieuse. La trahison d'Emma est impardonnable. Et sa rage est doublée d'incompréhension. Après tout ce que j'ai fait pour elle, je l'ai prise sous mon aile, je lui ai confié mes secrets, je lui ai donné la clé de ma maison. Henri tente de calmer le jeu. Et une fois la crise passée, Elena s'enferme dans une colère muette. Ils continueront à vivre leur vie ensemble, s'adaptant à la solitude et à cette méfiance qui ne quittera jamais vraiment le visage de leurs proches. Un an plus tard, en décembre 1884, la Society for Psychical Research entame une enquête sur les dires et les faits d'Elena Blavatsky. L'investigation dure plus d'un an et le rapport qui est publié est sans appel. Il l'accuse d'être une imposture. Elena et Henri sont bouleversés quand la nouvelle arrive. À lui seul, ce morceau de papier semble anéantir toute chance pour Elena de prouver sa légitimité et sa bonne foi. J'en ai pas fini avec eux. Je vais les poursuivre en justice pour blasphème, menace-t-elle. Henri n'est pas du même avis. Il veut la raisonner, lui dire que ça ne servira à rien. Il se rappelle du conseil qu'on lui donna quelques années plus tôt. Faire profil bas. Mais Elena reste sur sa position. Elle s'énerve de plus belle. Henri s'approche alors d'elle, la prend par le bras pour essayer de la calmer, mais elle le repousse d'un geste brusque. S'ensuit la dispute la plus violente de leur histoire. Tous deux s'accusent mutuellement de leur malheur et tombent inexorablement dans un puits de reproches sans fond. Elena quittera l'Inde le 31 mars 1885. Elle n'y reviendra jamais. Elle gardera de cette période un goût amer en bouche. Sur le chemin du retour, elle fait quelques arrêts en Italie, en Suisse ou encore en Allemagne, avant de s'installer à Ostende. Curieusement, c'est dans notre fameuse ville côtière qu'Elena s'établit pour terminer d'écrire son ouvrage le plus fameux, La Doctrine secrète. Malheureusement, sa santé se détériore de jour en jour. Une nuit, alors qu'elle est au plus mal, lui vient une vision d'un maître de sagesse à la voix douce, réconfortante. Il lui explique qu'elle se trouve à la croisée des chemins et qu'elle devra faire un choix rapidement. Soit elle choisit la mort et avec elle l'anéantissement de toutes ses douleurs physiques. Soit elle choisit la vie pour terminer sa mission sur Terre en rédigeant de nouveaux livres pour transmettre ses connaissances au monde. Elena lutte parce qu'elle sent en elle un ultime souffle d'énergie et de détermination. Elle reste ainsi en vie pour écrire des livres, et en grande quantité. Les années passent et le temps fait son travail. Le scandale Blavatsky finit naturellement par s'étouffer. Elena reprend confiance en elle. Oh, elle est bien consciente que, sans même faire d'efforts, elle rassemble du monde autour d'elle où qu'elle aille. C'est cet intérêt des autres pour ce qu'elle a raconté qui la pousse à créer une nouvelle loge de la Société théosophique à Londres, qui existe encore aujourd'hui. C'est en Angleterre qu'elle succombe finalement à une épidémie de grippe, laissant derrière elle une quinzaine de livres ésotériques, dont certains sont devenus une référence, à tel point qu'ils se vendent encore aujourd'hui. Ce qui est surprenant, c'est que 100 ans après sa mort, le rapport de fraude établi par la Society for Psychical Research a été modifié en faveur d'Elena. C'est ainsi que s'achève l'histoire d'Elena Blavatsky, une femme mystérieuse, anticonformiste, prise dans les tourments d'une controverse remettant en doute ses capacités surnaturelles. Mais imposture ou non, là n'est pas vraiment la question. Elena était d'abord porteuse d'une spiritualité multiforme et de fait, difficile à saisir. Une chose est sûre, Elena maniait parfaitement l'art de raconter des histoires. Et nous savons bien qu'entre fiction et réalité, la frontière est mince. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de vous raconter grâce à la plume de Selene Sinagovits.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.